les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
Sylvain Cid, archiviste du CNAES, et Marcel Gégère, professeur de la chaire de travail social et intervention sociale au CNAM, présentent les regroupements des écoles de travail social et le jeu de poupées russes des comités d'entente des écoles de formation de travailleurs sociaux. Les regroupements, les emboîtements et les perspectives de tronc commun. La chronologie remonte à 1927 pour les AS et 1966 pour les ES. Sylvain Cid note qu'à chaque fois, c'est pareil. Pour les EJE, pour les ME, le comité d'entente se crée et la création du diplôme d'État suit. Marcel Gégère raconte, lui, la fusion du GNI et de la force et montre que c'est un effet de la décentralisation et de l'obligation de travailler ensemble sur les territoires. Il met en valeur de profondes différences de conception de la formation derrière le sigle IRTS, avec deux façons d'être gros et d'être IRTS, juxtaposer des filières dans les mêmes locaux, ou avoir une stratégie de tronc commun. Patrick Dubéchaud présente les référentiels et l'apparition de la notion de compétence, dont je retiens cette définition de Nicole Mandon. La compétence, c'est le savoir mobiliser ses connaissances, capacités et qualités pour faire face à un problème donné. Avec humour, Patrick Dubéchaud décrit les fortes résistances face à la recherche de description du travail concret. Nathalie Thierry présente ensuite les IUT et l'opportunité d'inscrire la formation des travailleurs sociaux dans le cadre de la formation universitaire. Son intervention montre aussi la résistance des terrains à l'arrivée de ce trouble fait et en même temps la grande similitude des formations et du rapport au terrain dans la conception de l'alternance. Philippe Fabry présente cette question vue de Suisse, pays dans lequel l'ensemble des réformes discutées en France s'est fait dans une recherche de consensus, universitarisation, tronc commun et socle commun entre animateur social, éducateur social et assistance sociale. À noter, la formation continue associe très fortement la recherche académique, l'université, les hautes écoles et les terrains.
Alors, mon propos va être d'essayer de cerner ce modèle des comités d'entente des écoles de travailleurs sociaux, ce modèle de regroupement d'écoles de travailleurs sociaux qui est inauguré par les assistantes sociales en 1927 et qui va être reproduit par d'autres professions sociales. Donc, je vais essayer de cerner ce modèle et de mettre en évidence la dimension stratégique de ces regroupements et emboîtements successifs aussi de poupées russes, comme vous le trouvez nommé dans le programme. Mettre en évidence que ces regroupements ne sont pas du tout spontanés, mais ils répondent à des stratégies communes d'école. Et puis je vais montrer aussi comment ces montages réagissent aux perspectives de travailleurs sociaux unis, de troncs communs, qui sont élaborés par l'État. Alors d'abord, pour cerner ce que sont les comités d'entente d'école, je vais me servir de la toute simple chronologie historique. Prenons les assistantes sociales. En 1927, est créé le comité d'entente des écoles d'assistance sociale avec 6 écoles. 5 ans plus tard, en 1932, premier diplôme d'État des assistantes sociales qui s'appelle brevet des capacités professionnelles des assistantes sociales. Pour les éducateurs spécialisés, 1966, création du comité d'entente des écoles d'éducateurs, et un an plus tard, le diplôme arrive, le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Et on pourrait dire la même chose des éducateurs de jeunes enfants, 1966, la création du comité d'entente, 6 ans après, le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Les moniteurs éducateurs, 1969, le comité d'entente, et en 1970 arrive le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Donc on observe déjà une large proximité de chronologique entre les créations de comités d'entente et les diplômes d'État. Ces comités d'entente sont créés en vue de ces diplômes d'État. Ça, c'est un phénomène qu'on observe pour les professions sociales. Hein. Pour les professions médicales, on observe l'inverse. Il y a eu aussi des comités d'entente pour les infirmières, pour les puéricultrices. Mais le comité d'entente est créé après le diplôme d'État. Là, c'est une spécificité des professions sociales où le comité d'entente prépare. Il faut unifier les écoles, regrouper les écoles, toutes les écoles, face à l'État, face aux perspectives de diplôme d'État. Qu'est-ce que c'est qu'un comité d'entente ? Ben, l'idée, effectivement, c'est de regrouper toutes les écoles, de permettre qu'elles puissent s'entendre, comme leur nom l'indique, sur les points sur lesquels il est possible de s'entendre. Et on va avoir un peu une illustration de l'utilité de ces comités d'entente à travers l'expérience, la première expérience de comité d'entente des assistantes sociales. Puisque en 1924, les écoles qui ne sont pas encore regroupées en comité d'entente demandent un diplôme d'État, déjà, avant la création du comité d'entente. Et au lieu de présenter un programme unique des 5 écoles qui existent, elles vont présenter leur demande de diplôme d'État, mais en présentant autant de programmes qu'il existe d'écoles. Donc 5 programmes très inégaux, avec des disciplines qui vont de 5 disciplines à 15 disciplines, des inspirations très différentes, l'une est catholique, l'autre plutôt protestante, l'une forme plutôt les surintendantes d'usine, et finalement, au Conseil supérieur de l'assistance publique, on va considérer que cette démarche n'est pas très sérieuse, et que finalement, le service social ne constitue pas une profession en soi. Et voilà, c'est l'échec de cette première demande de diplôme d'État qui va décider les écoles à se regrouper dans un comité d'entente 3 ans plus tard, en 1927. Pour les autres, alors voilà, ça c'est le premier comité d'entente. Les autres professions vont mettre un peu plus de temps à constituer un comité d'entente. On le voit, enfin, j'ai surtout travaillé sur les écoles d'éducateurs spécialisés, hein, mais la profession existe déjà dans les années 40 et le comité d'entente des écoles arrive en 66. Alors, entre les premières écoles d'éducateurs en 42-43 et le comité d'entente, il y a eu plusieurs regroupements, mais qui ne regroupaient pas évidemment toutes les écoles. Il y a eu des regroupements par affinité, par réseau, des écoles plutôt des écoles catholiques, celles qu'on appelle les écoles du groupe AMCE, l'assistante maîtrise catholique de l'enfance, les écoles des Arcea, certaines sont liées à une université, d'autres non. Voilà pour les éducateurs, donc il y a une partie de ces écoles se retrouve dans une commission des écoles de l'ANEJI, par exemple. Vous avez sans doute entendu parler de l'ANEJI ce matin. Et dans cette commission des écoles de l'ANEJI, on ne retrouve pas les écoles AMCE. Et en 1966, à cette date-là, toutes les écoles se retrouvent au comité d'entente. L'État prévoit la création d'un diplôme d'État et donc il est urgent de se regrouper totalement. Pour les éducatrices de jeunes, les jardinières d'enfants, futurs éducateurs de jeunes enfants, c'est pareil. Il y a l'association des centres de formation de jardinières d'enfants qui est créée à la Libération. Là aussi, il y a des processus un peu d'exclusion, puisqu'en 1946, mais il y a 6 écoles qui sont exclues de ce premier groupement. Et ça va être le même processus. En 1966, le comité d'entente regroupe toutes les écoles. Alors, une fois les diplômes d'État obtenus, ces comités d'entente choisissent de perdurer. On aurait pu penser qu'ils vont arrêter leur activité. Et en fait, ils continuent. L'État met pourtant en place des conseils de perfectionnement pour améliorer les programmes, accepter les nouvelles écoles. Par exemple, ou réfléchir sur les modifications de fonctionnement. Et finalement, les comités d'entente choisissent de rester pour éviter la mainmise de l'État sur ces écoles. Alors, à la fin des années 60, ces groupements sont secoués par les annonces de regroupements des professionnels. Donc, la première annonce, ça va être celle des IUT carrières sociales dont on va vous parler tout à l'heure. Et cette première annonce d'IUT carrières sociales provoque la réplique évidemment du ministère des Affaires sociales qui veut instituer des instituts régionaux de carrière sociale. Alors comment s'emparent les comités d'entente de ces perspectives-là, puisque la plupart des écoles à l'époque sont monofilières. Donc vous avez très peu de relations d'un comité d'entente à un autre, même si ces comités d'entente sont créés sur le même modèle, il y a quasiment aucune relation entre comités d'entente. Et finalement, la démarche reste prudente, la réaction reste prudente face à ces annonces. Alors il va y avoir, par exemple, au comité d'entente des écoles d'éducateurs, une commission des IRCS en novembre 68, sous la responsabilité de Paul Lelièvre. C'est un dossier qui finalement ne passe pas les écoles. Il y a, par exemple, à Metz, un IRCS qui ne forme pas d'éducateurs spécialisés. À Poitiers, il y a un IRCS en cours de réalisation. À Bordeaux, un projet qui est encore en sommeil. À Caen, un IRCS mais qui possède deux formations parallèles qui ne se rejoignent pas, d'assistante sociale et d'éducateur spécialisé. Donc finalement, c'est une perspective qui n'est pas tellement prise en compte. Alors, il va y avoir plusieurs étapes encore par la suite, puisque l'État revient à la charge sur ce projet-là. Il va y avoir un projet de loi d'IRFTS. Alors, il faut dire que déjà, la dénomination d'IRCS, où on parle de carrière sociale, carrière est déjà un mot détestable pour ces professions-là. Donc, on passe plutôt aux IRFTS, Instituts régionaux de formation de travailleurs sociaux. Il va y avoir cette perspective d'IRFTS avec un projet de loi à la clé va provoquer des réflexions dans chaque comité d'entente. Finalement, un avis est demandé au comité d'entente pour la fin juin 71 et il va y avoir des documents qui seront produits. Le comité d'entente des écoles d'éducateurs spécialisés va créer une commission IRFTS en 71, donc c'est assez tardif. Hein, et donc cette commission va consacrer une rupture au sein du comité d'entente, puisque la commission se démarque largement de la majorité des écoles éducateurs. La commission déplore que son action est inefficace puisqu'elle ne peut pas mobiliser l'intérêt des participants du comité d'entente. Terminé. Arrêtez là. Pour conclure, ce projet d'IRFTS est abandonné temporairement dès 71 par l'État. On va mettre en avant le fait que ces IRFTS risquent de coûter cher, donc l'État n'est pas prêt à mettre de l'argent dans ces IRFTS. Les comités d'entente vont se regrouper, autre niveau de poupées russes, dans une fédération nationale des comités d'entente et de liaison des centres de formation de travailleurs sociaux. Cette fédération est créée fin 71. Et elle va être saisie en fait, de ce projet de réfléchir à une pédagogie commune des travailleurs sociaux. Cette réflexion va s'étioler finalement très vite au fil des années. Le rôle de la fédération va de plus en plus évoluer vers un rôle d'harmonisation plutôt par l'argent que l'harmonisation pédagogique. Et la question des normes fonctionnement harmonisé va prendre de plus en plus d'importance dans les travaux de la Fédération nationale des comités d'entente Et le dossier des normes lui aussi s'étioler à la fin des années 70, début des années 80, puisqu'il va se transformer en une question d'indicateurs de fonctionnement et non en une question de normes de fonctionnement contraignantes.
Mon propos n'a pas peu de choses à voir avec ce que je fais au CNAM, mais c'est plutôt celui d'un témoin de ce qui s'est passé dans les années 80-90, puisque je deviens formateur à l'école d'éducateurs spécialisés de Versailles, à Buc, en septembre 82. J'y resterai 18 ans et je prendrai ensuite la direction d'un IRTS. C'est un peu ce mouvement que Sébastien a commencé à aborder, que je voudrais prolonger en situant d'abord tout ce processus sur fond de deux problèmes. Il y a un problème qui est un problème de segmentation extrêmement poussé de l'appareil de formation, et d'ailleurs dont la segmentation ne se superpose pas exactement à l'émiettement des qualifications et des identités professionnelles. Donc, je pense que cette thématique-là est en lien direct avec la préoccupation que l'on a, vous avez, de réfléchir sur ce qu'a pu être l'idée d'un travailleur social unique. En tout cas, cet émiettement, il est l'illustration, donc, pas simplement du fait que des identités professionnelles se soient très fortement structurées, il est aussi une illustration du poids d'histoire associative, de culture, d'ancrage territoriaux, et je mets des guillemets, et de fortes personnalités. Et le deuxième problème que l'on a dans cette histoire, c'est un problème de représentation. Parce qu'en fait, le principe de ces représentations, autour duquel tout le monde a tourné pendant longtemps, jusqu'à la création de l'Inaforis, eh bien, correspond, je dirais, à la fois à des réflexes défensifs, notamment par rapport à l'État, puisqu'il s'agit de se rouvrer pour être en meilleure position. Et à ce titre-là, j'ai participé à des commissions du temps d'une vitesse, se rassembler pour cela. Et puis il y a aussi des réflexes non seulement défensifs, mais des réflexes identitaires, avec un problème qui va être comme en arrière-plan du processus, qui va être la question des gros. Et notamment, clair, lorsque UNITES se crée, il va y avoir une scission à laquelle j'ai assisté, puisque à l'époque j'étais directeur adjoint à l'école de Buc, et c'est Guy Drano qui menait l'opération, qui a été de sortir de UNITES pour aller dans le GNI, alors que Buc n'était pas, et n'est toujours d'ailleurs pas, réglementairement, un IRTS. Donc il s'est passé quelque chose là de tout à fait surprenant, et la rupture est intervenue sur un élément, alors là, qui est directement lié au problème de la représentation, je dirais, au problème de la démocratie représentative, c'est que ce que nous ne supportions pas, en fait, c'est que le principe d'une idée, c'était qu'un centre égale une voix. Et donc, quand vous avez des gros, vous avez le sentiment, alors, vu qu'il était un moyennement gros, ou en tout cas, essayer d'être gros, mais en vrai, c'est quand même relativement moyen, quoi. Mais ce qu'on ne supportait absolument pas, c'est que des décisions concernant, par exemple, je vais dire un truc sur des formations de niveau 1 ou de niveau 2, soient prises avec un vote, dans lequel des centres monofilières, ils faisaient par exemple que du niveau 5, prenaient position et leur voix était égale aux autres voix. Donc il y a eu un clivage qui s'est fait de cette façon-là. Donc c'est un des éléments à la fois, je dirais, de ce mouvement que Sylvain a montré, de regroupement, mais aussi un mouvement toujours traversé par des scissions. Alors, il y a les gros, puisque je suis bloqué, les gros, ils se retrouvent, alors c'est aussi quelque chose, faut bien se pencher sur les questions de vocabulaire, parce que quand j'ai entendu tu parler des RTS, aujourd'hui, ce qui est admis, on utilise le terme générique de FTS, établissement de formation au travail social, parce que les IRTS, elles ont un support réglementaire qui est l'arrêté du 22 août 1986. Or, le GNI qui s'est présenté, alors, le GNI, il se trouve que après le séminaire de Beaune du GNI, où j'étais à l'époque directeur adjoint, parce que je suis devenu directeur d'école de Buc, en 1997, donc on peut situer ça à...
Je Marcel, peut-être qu'il faudrait préciser pour tout le monde ce qu'est le GNI.
Voilà, alors le GNI, c'est le groupement national des instituts. Alors, il y a plusieurs façons de dire. On va dire qu'il était admis de dire que c'est le groupement national des instituts régionaux de travail social. Et ensuite, en réalité, au moment où un certain nombre de multifilières, je vais revenir, sont entrées dans le GNI, l'appellation du GNI a été modifiée et c'est devenu le groupement national des instituts. Ouais, on est resté un peu dans le vague par rapport à ça. Et alors là, il y a quand même... je dirais que dans un séminaire que j'évoquais à Beaune, Buc est la première école d'UNITES à être accueillie comme étant un petit canard et demander son adhésion au GNI. Alors là, il y a un problème de date pour vous situer, c'est que le GNI, il est créé en 1983. Et ce sont d'abord d'ailleurs des IFTS qui d'ailleurs, pour certains, garderont leur appellation d'origine, bien qu'ils aient participé à la création du GNI et qu'ils soient dans le GNI. Par exemple, l'Institut de développement social de Canteleu, en même temps l'IRTS de Haute-Normandie, de la même façon que l'ITSRS, l'Institut de travail social et de recherche sociale, en clair l'IRTS de Montrouge, qui a maintenu pendant longtemps le souhait de se distinguer de l'IRTS Paris de France du Parmentier et a conservé pendant longtemps la référence, et le garde d'ailleurs, je crois, encore aujourd'hui, l'appellation ITSRS. Bref, moi je vais dire ça comme ça, les gros acceptent un petit, et en fait le GNI est créé avant l'arrêté du 22 août 86. En fait, tous ces établissements sont des conglomérats qui deviennent gros par fusion successive. Et alors là, il y a deux choses que je voudrais dire, c'est d'une part, la conception des IRTS, à la fois elle répond à des orientations qui avaient été prises par Bernard Lory, qui était le directeur général de la population et de l'action sociale, et qui a écrit un livre fameux, d'ailleurs que je vous conseille, qui s'intitule « La politique d'action sociale », c'est un livre qui sort en 1975. C'est un des premiers à avoir une vision globale, et notamment, puisqu'on parle du dispositif d'action globale des ITEP, en fait l'idée d'action globale, elle est dans le livre de Bernard Lory, et c'est ça finalement qui va préfigurer le modèle des IRTS. Sauf qu'il y a deux façons d'être gros, ou il y a deux façons d'être institut régional du travail social. Il y a une façon qui consiste à juxtaposer des filières dans les mêmes locaux, et là on pourrait donner quelques exemples, hein, je ne vais pas m'engager là-dessus, soit une autre formule qui est d'avoir une stratégie prospective avec l'idée d'un tronc commun, et là il faut se référer au rôle de Christian Bachmann avec l'idée d'un tronc commun où on va mettre ensemble des AS, des ES et des EJE, et qui, c'est aussi une façon de concevoir un IRTS. Autrement dit, il y a deux types d'instituts du GNI, il y a des super multifilières, mais par juxtaposition, où il y a, je dirais, des systèmes intégrés avec deux logiques d'intégration d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, il y a un lien entre ce qui se passe à Buc et ce qui se passe à Montrouge, parce qu'à Buc, il y a déjà l'idée aussi du tronc commun, mais on met dans le tronc commun les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les éducateurs techniques spécialisés. Et quand il y aura la création du CAPDES, d'ailleurs c'est pour ça que Buc perdra à un moment donné son agrément CAPDES, on mettra à la fois la formation des chefs de service et les CAPDESiens, etc., ce qui pour Rennes a été absolument insupportable. Donc ça, c'était une formation, c'est mieux. Et il y a un autre modèle qui était plutôt celui de Montrouge, qui est un système d'anticipation de l'avenir du travail social tel qu'il était pensé par l'État. Alors, je ne vais pas développer plus, mais je veux dire deux choses. D'abord, le mouvement de sortie d'UNITES vers le GNI va quand même jouer un rôle dans la création d'une aphoris. Pourquoi ? Parce que finalement, des vrais IRTS estampillés, on peut en compter 14 qui ont eu le texte, le dernier étant celui de l'île de la Réunion. En fait, le GNI, quand il a disparu, j'étais secrétaire général adjoint à cette époque, c'était 22 établissements. Donc, sont sortis d'UNITES de fait, l'IRFAS d'Evry, l'ESTES de Strasbourg, l'IRIS, l'IMF pour Marseille, l'ITES de Brest, l'école d'éducateurs spécialisés de Lille, le CERF FPE de Lille, et l'établissement de la Guadeloupe. Donc il y a véritablement une fracture qui va s'organiser. Et alors il y a un cas spécial qui intéressera certainement les historiens, et qu'en même temps qu'un certain nombre de gens partent d'UNITES pour aller au GNI, eh ben, il y a un IRTS qui lui va aller à UNITES et qui rompt avec le GNI parce qu'il demande, et c'est celui de Metz-Nancy, qui en 1994, suite à la fusion, demande à avoir la double adhésion, à la fois Unitas via force et le GNI, ça sera refusé par le GNI, et donc le DIRTS qui ne sont pas nécessairement dans le GNI. Je vais terminer sur une idée, si vous voulez, qui est que quelle était la différence entre A force et le GNI. La différence qui était avancée, c'était un, que le GNI, alors je vous donne la version GNI, hein, c'est qu'au GNI, il y avait deux collèges, directeur et président, alors que A force, c'est pas un niveau d'élaboration suffisant, quelqu'un pourra en arriver à ce stade-là. Et deuxième élément, ça a été la création du diplôme. Le pari du GNI, c'est que le GNI, il pouvait créer des diplômes. C'est ce qu'il a fait avec le diplôme de cadre de l'intervention sociale, qui a préfiguré le CAFERI, c'était un moment très très important. Et puis troisièmement, c'est la question des liens avec les universités, mais en même temps, ce n'était pas spécifique, parce que là-dessus, aussi, il n'y avait rien. Et ça va. Désolé, je suis très discipliné, je respecterai le minutage. En réalité, il y a eu des collaborations obligées, et je dirais, là-dessus, que ce qui a amené la fusion GNI à force, qui a obligé tous ces gens-là à se rassembler, ça n'était plus comme autrefois une stratégie défensive, ça a été un des effets, je dirais ça comme ça, un des effets de la décentralisation et de l'obligation de travailler sur des territoires. Et là, on pourrait, je dis le truc, c'est l'expérimentation de la formation d'AMP en redirect, d'AMP par la validation des équipes professionnelles, c'est les 7 éducateurs d'éducation nationale, c'est le dispositif spécifique de branche pour la VAE, avec le rôle des OPCA, le rôle de la CPNE, qui a dit au centre, écoutez, en gros, je résume, mais je pars sous contrôle de Annie, vos histoires, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est que vous répondiez aux besoins sur une territorialisation, et en Ile-de-France, eh ben, on s'était réparti le territoire en trois pôles, et tout ça, ça a facilité l'Assemblée Générale Constitutive du Naforis le 19 décembre 2008, et la naissance du Naforis dans la foulée.
Comme ancien responsable de centre de recherche de l'ETSUC, mais ce n'est pas du tout à ce titre-là que je vais parler, parce que le temps où j'ai été responsable du centre de recherche dans un centre de formation de travailleurs sociaux, on ne m'a jamais demandé de parler de ce que j'avais fait auparavant. C'est juste pour dire l'ouverture. Alors là, vous avez applaudi mon ami Jean-Louis Segarra ce matin. Vous allez entendre la parole plutôt néolibéral qui émerge depuis les années 90, n'est-ce pas? Donc en fait, j'aurais pu intituler mon propos sur le mythe des particularismes et des spécificités des métiers du travail social et de l'intervention sociale. Vous voyez? Je vais m'en expliquer, bien sûr. Alors, il se trouve que, donc moi j'ai travaillé 17 ans dans un organisme qui s'appelle le CREDOC. Vous voyez, c'est les études sur la consommation et le comportement des consommateurs que nous sommes. C'est très proche du travail social, bien sûr. Mais il se trouve que j'ai pas eu de chance, franchement, dans ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans un département évaluation des politiques sociales, à partir du milieu des années 80. Et donc, vous voyez que l'évaluation, ça me traverse l'existence. Et donc, j'ai produit des évaluations de politique sociale pendant toute cette période. Inutile de vous dire quand j'ai commencé à entrer dans les écoles de travailleurs sociaux, c'était inaudible, bien sûr. Mais ça, vous le savez bien. L'autre problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai travaillé sur la logique de compétence et l'émergence de la logique de compétence dans les années 90. J'ai la chance d'avoir Annie Léculé avec moi, parce que en fait, on a beaucoup travaillé ensemble, avec Promofaf à l'époque, et ensuite une IFAF, sur cette question. Alors, je ne vais pas faire l'histoire, mais la logique de compétence, évidemment, c'est dans le monde de l'entreprise, c'est les années 70-80, etc. Ça émerge dans les années 90, dans des nouveaux modèles d'organisation et dans des interrogations dans votre secteur professionnel. Pas de chance non plus. Les premiers travaux que je fais pour construire un référentiel d'activité et de compétences, ça me tombe, je me suis demandé par des directeurs, de la prévention spécialisée. Et alors là, c'est chaud, quoi. Parce que, évidemment, s'il y a un secteur illisible, peu ouvert, c'est bien celui-là, entre autres. Et donc, le principe, dès le départ, que j'ai toujours appliqué, je me suis appuyé sur les méthodes, je ne sais pas si vous connaissez Nicole Mandon, du CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche de l'emploi et des qualifications. Donc, on s'est, pendant tous ces travaux, on s'est appuyé sur ces méthodes-là qui consistent à les faire décrire les activités des personnes. En fait, on prend ce qu'on appelle des espèces de budget temps et on leur dit, voilà, on prend une semaine à un moment donné, vous nous décrivez ce que vous faites, ce que vous avez fait pendant cette semaine. Alors, évidemment, si on prend une semaine au mois de janvier en prévention spécialisée, ce n'est pas significatif. Donc on va demander à prendre aussi une semaine au printemps, voire l'été. On essaye de caler. Alors mon problème, c'est que j'arrivais dans les équipes et les équipes me disaient l'arrêté de 72, les principes de la prévention spécialisée, et puis le travail de rue. Très bien, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Comment vous vous comportez? Comment vous travaillez concrètement quand vous rencontrez des jeunes, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre. Vous voyez, c'est la démarche, c'est de dire, de rentrer par l'activité. Donc ça, c'est le premier travail. Juste, je l'ai amené parce que ça me fait toujours plaisir de sortir de mes placards parce que on a travaillé sur des documents qui ne servent absolument à rien. Toute ma carrière, j'ai travaillé sur des documents qui ne servent absolument à rien. Un guide, voilà. Et donc là, vous avez les référentiels des éducateurs, les compétences des éducateurs, etc. Deuxième travail, en 98, il y a un programme européen sur le métier d'éducateur. Il se trouve que le CREDOC participe à ce programme et comme on s'entend assez bien, on travaille avec PromoFaf. Et donc c'était l'idée de travailler sur qu'est-ce que c'est que les éducateurs en Europe, à quoi ça correspond. Et donc là, rebolote, on va rencontrer des gens, nous, on était dans la partie espagnole et portugaise, donc c'était avec le CREAI Midi-Pyrénées, et donc on va rencontrer des gens, etc. Et toujours avec la même méthode, on entre par l'activité, vous voyez, par l'activité. Bien sûr, les Français, ils arrivent avec leur histoire de l'éducation spécialisée, des éducateurs spécialisés, alors qu'il y a des opérateurs en Italie, il y a des travailleurs sociaux de différentes appellations. Donc les filières, ça n'existe pas forcément, et c'est des formations universitaires, pour beaucoup. Troisième expérience. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un ouvrage qui s'appelle « Les mutations du travail social », le travail de la MIR en 99 et 2000. C'est, de mon point de vue, un ouvrage indispensable dans les centres de documentation parce qu'il marque un tournant. Enfin, je dis ça à côté de Marcel, il ne sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, c'est un tournant parce qu'on interroge la notion de travail social et on introduit la notion d'intervention sociale. C'est-à-dire que dans les années 80 et 90, il y a une multiplicité d'emplois, d'emplois qui émergent. Et donc, de ces gens qui interviennent dans l'activité sociale d'une manière ou d'une autre, et qu'est-ce qu'on en fait, tout ça? Bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce travail de la MIR, où il y a eu 7 labos, c'était chaud aussi, il y a eu 7 équipes de recherche. Alors, il y avait des labos d'école, et puis il y avait nous qui étions au CREDOC, on se demandait ce qu'on foutait là, quoi. Enfin, on nous demandait ce qu'on faisait là. Et donc, ça a été une grande question, bien sûr, sur faut-il utiliser le terme d'intervention sociale, ou faut-il rester sur les mutations du travail social? En définitive, pour faire consensus, on est resté sur le titre « Mutation du travail social ». Heureusement que Marcel a introduit dans sa chaire de travail social le mot « et d'intervention sociale ». Merci. Bon. Alors, dernier exemple du travail, après je vous le... Dernier exemple, le contrat d'études prospectives de la branche sociale et médico-sociale. Hein, vous avez entendu parler de ça?
Hein, vous voyez, je l'ai amené là, parce que... là,
hein, il y en a des tomes à l'UNIFAP. Hein, il y en a des tomes. Donc on a fait un travail de deux ans. On a fait un travail auprès de 1000 établissements, de 5000 salariés, enquêtés par questionnaire et par... Enfin, on n'a pas fait 5000 entretiens, mais on a fait plus de 500 entretiens. Donc c'est un travail considérable. Un travail considérable pour aboutir à quoi? On a travaillé sur toujours notre entrée par les activités pour dégager ce qu'on appelle, à travers des registres d'activités, hein, on va construire des faisceaux d'activités. Et donc, un faisceau d'activités, c'est ça. Là, vous avez 54 registres d'activités qu'on n'a pas inventés. Hein. C'est-à-dire qu'on les a travaillés, évidemment, avec... c'est pas nous, dans notre bureau de chercheurs, etc. Avec on a travaillé ça avec des professionnels, avec des gens de PromoFAP, évidemment. Simplement pour vous dire, je vais vous en citer les principaux. Alors, on a fait émerger, par exemple, information, démarche, aide à la vie quotidienne, diagnostic et accompagnement, réunion de synthèse, études, intervention groupe, rééducation et soins, production, entretien, administration, comptabilité, encadrement, négociation, ingénierie et réception du public. Tout ça pour vous dire que si on regarde le faisceau d'activité d'un éducateur spécialisé en milieu ouvert, oh, c'est quand même curieux qu'il ressemble beaucoup à une assistante sociale. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre, ça. Si on regarde le faisceau d'activité d'un éducateur spécialisé en établissement, ah ben, ça n'a rien à voir avec l'éducateur technique spécialisé dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi ils se retrouvent ensemble, finalement, dans les mêmes établissements? Ils pourraient être dans d'autres styles de filières. Alors, l'éducateur de prévention spécialisée. Alors, l'éducateur de prévention spécialisée, c'est-à-dire qu'il fait tellement de choses qu'en fait, c'est obligé, évidemment, il se distingue un peu de l'animateur. Malgré tout, quand on regarde le cœur de métier, comme on l'appelle, hein, et ben, en fait, on se rend compte que le cœur de métier, il appartient à beaucoup de gens. Et à beaucoup de métiers, le cœur de métier. Et que les spécificités, finalement, elles sont pas, elles sont relativement, on va dire, elles existent, bien sûr, mais c'est pas le critère dominant. Donc on se rend compte que on est sur des métiers dont les frontières sont relativement poreuses si on regarde, si on entre, non pas par l'histoire, mais si on... Excusez-moi, mais si on entre par... Qu'est-ce que font les gens, hein, par activité? Et donc, dans cet après-midi ou cette journée consacrée au mythe des travailleurs uniques, je trouve que c'est tout à fait intéressant de s'intéresser à ça, mais on voit bien qu'il faudrait aussi s'intéresser à une reconfiguration assez radicale de l'architecture des diplômes, non? C'est-à-dire que comme... Alors, Marcel... on va se faire tuer, oui, dit Marcel. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, le travail qui a été mené sur les états généraux, on devait travailler sur la refondation, je crois. C'est ça. Puis finalement, alors, il y avait quelqu'un qui disait que vous étiez massivement... massivement, il ne faut pas exagérer non plus, hein, vous n'êtes pas bloqué... Paris, mais en fait le ministère, parce que le rapport Bourguignon il n'était pas prévu, hein, il n'était pas prévu, mais comme il y a des échéances électorales, il faut bien que quand même les travailleurs sociaux faut les ménager, et donc on a fait marche arrière sur ce qui était proposé dans l'architecture des diplômes. C'est-à-dire que cette question du travailleur social unique qui va être démêlée un jour ou l'autre, c'est-à-dire que là, vous allez avoir il y avait quelqu'un qui disait ça nous tombe d'en haut, mais pas seulement d'en haut, ça vous tombe à la périphérie. C'est-à-dire que dans les années 90, quand il y a cette massification des emplois de l'intervention sociale, ça ne vous tombe pas d'en haut. C'est-à-dire que vous êtes dans un noyau très, très corporatiste, voire peut-être conservateur, on dit, hein, et vous êtes derrière vos barricades, mais autour de vous, ça bouge. Et par exemple, sur cette question des diplômes, c'est un jour peut-être que l'Europe va taper du poing et va dire « il faut que ça change ». Donc ça ne vous tombera pas d'en haut, mais ça va vous tomber sur les côtés. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que donc aujourd'hui, s'interroger sur le travailleur social unique, ce serait, bien sûr, vous l'avez montré dans vos travaux, c'est un mythe, mais il faudrait aussi déblayer aussi les mythes des spécificités des métiers.
Au département carrière sociale de l'unité de Ville d'Avray, qui se situe à Nanterre, sur le campus de l'université, et j'ai été responsable de cette formation durant les 5 premières années de son existence, c'est-à-dire à partir de 2009. Donc, je vais d'abord présenter les débuts des départements carrière sociale, avant de présenter comment, à travers l'exemple de Nanterre, nous avons tenté de jeter des ponts avec la formation des éducateurs spécialisés, réalisés en école. Donc, les unités ont été créées il y a maintenant 50 ans, juste cette année, donc le 7 janvier 1966. L'objectif était alors de développer l'enseignement technique par des formations courtes à visée professionnalisante, et il s'agissait de former des cadres intermédiaires pour accompagner alors la modernisation de la France dans les secteurs d'activité, de la production, la recherche appliquée et les services. Donc ce décret de 1966 prévoit d'emblée 25 spécialités, dont celle de carrière sociale, qui sera mise en place dès 1967. Et donc, comme vous pouvez le noter, c'est également l'année de création du diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Donc en 1966, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, les écoles de travail social existent déjà, elles relèvent donc d'initiatives privées, mais à cette époque, certains voient dans la création des IET l'opportunité d'inscrire la formation des travailleurs sociaux dans le cadre de la formation universitaire. Donc ça va être le cas à Grenoble, qui est le premier département carrière sociale à être créé, dès 1967. Et ça a été fait à l'initiative d'un maître de conférence en psychologie, M. Jean Lemaine, qui était également engagé sur le terrain, en particulier dans les ITEP, et aussi d'une directrice d'école de service social privé, Mme Maria Bolus. Donc, à titre expérimental, cette école va être intégrée au département carrière sociale et, dans le même temps, une formation d'éducateur spécialisé va être installée et ces deux formations vont avoir l'habilitation, enfin l'une l'avait déjà, pour préparer donc le diplôme d'État. Plusieurs départements vont ouvrir l'année suivante. Bordeaux, Poitiers, Rennes, Tours, tous avec l'option animation socio-culturelle. Donc, comme l'a dit Mathias, j'ai pu consulter des documents cette semaine. Et donc, l'un d'entre eux, daté du 9 décembre 68, atteste que certains de ces départements envisageaient de regrouper en leur sein des formations d'éducateurs et d'assistantes sociales, donc sur le modèle de Grenoble. L'arrivée de ces nouveaux acteurs inquiète fortement les centres de formation existants, donc on a rappelé tout à l'heure qu'ils étaient généralement monofilières, et on a pu voir dans ce document que, soutenu par le secrétariat d'État aux affaires sociales, ils vont s'opposer de manière assez offensive au développement des formations sociales en unité, déclarant le cadre universitaire inadéquat, trouvant la formation à Grenoble légère, selon le terme utilisé. Donc, nous avons aussi pu lire un courrier du secrétaire d'État chargé des affaires sociales, adressé cette fois au ministre de l'Éducation nationale, qui révèle que dès cette année, donc 68, comme c'était dit aussi tout à l'heure, il existe un projet d'instituts régionaux des carrières sociales, donc pour les établissements du privé. Donc on comprend bien que l'extension des départements carrières sociales avec les options ES et AS, qui plus est avec l'habilitation à préparer les diplômes d'État, apparaît donc comme un projet concurrent. Alors, chose intéressante, dans ce document, les affaires sociales évoquent la possibilité d'établir des conventions avec les universités. Donc déjà, à l'époque, c'était le cas, même si on sait que finalement, très peu de collaborations seront effectivement mises en œuvre durant ces 50 années, tout du moins au niveau des formations initiales. Donc cette résistance explique pourquoi c'est surtout l'option animation socioculturelle qui s'est implantée au départ dans les IUT. Donc à Lille, la Lille qui a ensuite été déplacée sur le site de Tourcoing, à la même époque, donc les années 1968-69, une école d'éducateurs spécialisée va éclater en deux nouveaux centres. Certains formateurs veulent rester dans le privé, d'autres veulent rejoindre l'université. Ces derniers obtiennent que leur école soit intégrée à une unité d'enseignement et de recherche qui aura un statut dérogatoire, qui sera intitulé « Technique de réadaptation ». Et un petit peu plus tard, à l'ouverture du département carrière sociale, en 1972, on commencera avec l'option animation socioculturelle, la moins difficile à mettre en place. Elle sera suivie un an plus tard par l'option ES. Alors, dans un premier temps, les étudiants vont être inscrits administrativement à l'IUT, mais suivront en fait leur formation à l'UR, technique de réadaptation. La situation dérogatoire devenant complètement intenable, c'est donc en 1981 que la formation d'ES sera entièrement rattachée à l'IUT avec le diplôme d'État. Donc on voit donc qu'à l'origine de ces deux départements, Grenoble et Lille, il y a donc bel et bien eu, dès la fin des années 60, la volonté d'inscrire les formations du social à l'université. En ce qui concerne l'option assistance sociale, les DUT les plus anciens sont celui de Descartes à Paris 5 et celui de Bobigny à Paris 13. Alors, à Descartes, le département carrière sociale va d'abord ouvrir, là aussi, avec l'option animation socioculturelle en 1969. Puis, l'option AS va être créée, qui va d'abord accueillir les professionnels non diplômés dans le cadre de la formation continue, avant de s'ouvrir progressivement à la formation initiale. Alors, cas particulier, quelques années plus tard, en 1978, une école de service social est créée au sein de l'UT, à laquelle collaborent d'ailleurs des formateurs de l'Institut Montrouge. C'est à partir de 1995 que certains étudiants du DUT vont pouvoir être admis dans cette école après avoir passé des épreuves de sélection dans l'objectif de préparer le diplôme d'État d'AS en complément du DUT. Donc la responsable de cette école est Martine Noalit, qui est elle-même ancienne assistante sociale et qui a été formée à l'IUT de Grenoble. Donc on se retrouve ici en terrain. Pour Bobigny, le scénario est un peu différent puisque l'option AS est l'héritière d'une formation d'assistant de service social plus ancienne qui a été adossée depuis les années 70 à la filière AES de l'Université Paris 13, puis rattachée à l'Institut universitaire professionnalisé de cette même université. Et c'est au moment de la professionnalisation, de la disparition, pardon, des IUP, que la formation va rejoindre en 2005 l'IUT de Bobigny, qui est alors dirigée par Daniel Verba, lui-même auparavant responsable de cette école de service social, avec Philippe Mondolfo. Donc ces quatre départements pionniers ont toujours l'habilitation pour préparer DDE, et il reste actuellement des exceptions. Aucun département créé ultérieurement avec les options ES et AS n'ont pu l'obtenir. Alors il est à noter que trois de ces départements, donc Grenoble, Descartes et Bobigny, sont les seuls IUT à adhérer à l'INAFORIS. Donc actuellement, il existe 24 départements carrière sociale en France, qui préparent donc le DUT. Cette formation se réalise en 2 ans, ce qui représente 1640 heures d'enseignement et 10 semaines minimum de stage. Le diplôme s'obtient par la validation de 4 semestres, équivalent à 120 ECTS, et les contenus d'enseignement sont définis par le PPN, le Programme Pédagogique National, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le DUT se décline en 5 options. Animation socio-culturelle, donc vous le voyez, c'est l'option la plus répandue au sein des départements. Assistance sociale, éducation spécialisée, gestion urbaine et service à la personne. Donc pour la suite de cet exposé, je vais me centrer sur l'option que je connais le mieux, c'est-à-dire éducation spécialisée, qui est préparée dans 7 départements qui ont des situations très, très diverses, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Tout d'abord, il s'est passé plusieurs décennies avant que d'autres départements ne soient créés après Grenoble et Lille. On voit entre 1973 et 2007, plus aucun département n'a pu voir le jour, enfin, en tout cas avec l'option S. Pour les départements créés à partir des années 2000, la question du lien avec le diplôme d'État se trouve posée. Car si le DUT a une visée professionnalisante, seul le diplôme d'État permet d'accéder au titre d'éducateur spécialisé et donc au cadre d'emploi correspondant. Pour les 3 départements les plus récents, la poursuite d'études a été organisée en collaboration avec une école, un éducateur, dès leur création, selon des modalités qui sont propres à chacun, et qui fait l'objet d'une convention partenariale. Soit l'ensemble des étudiants prépare à la fois le DUT et le diplôme d'État, soit seulement une partie d'entre eux se dirige vers le diplôme d'État. Pour Cholet et Nanterre, l'ouverture de la formation s'est faite cette fois sans qu'aucun parcours vers le diplôme d'État ne soit assuré, qui reste vraiment problématique, en tout cas de notre point de vue à Nanterre. Les étudiants qui souhaitent poursuivre vers le diplôme d'État peuvent faire valoir l'article 9 du décret du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État, qui prévoit des allégements de formation pour les titulaires d'un DUT carrière sociale, quelle que soit l'option. Mais dans la réalité, beaucoup de centres de formation ne se sentent pas tenus de les accepter. Ou alors, ils imposent de les répartir sur 2 années, voire 3 années après le DUT. Alors pourquoi ? Certains invoquent la difficulté d'individualiser les parcours de formation, d'autres des questions de financement, ou encore le manque de stages dans le cursus DUT. Du côté les enseignants veulent éviter que le DUT soit positionné comme une simple préparation au diplôme d'État et tiennent à préserver donc son caractère spécifique. Mais la vocation du DUT n'est pas non plus d'orienter massivement les étudiants vers les filières universitaires. Donc à Nanterre, nous avons choisi depuis le démarrage de travailler avec des responsables et des équipes de plusieurs centres de formation de la région parisienne pour faciliter le passage d'une formation à l'autre. Nous avons donc essayé de dégager des points de convergence entre les deux cursus et mis en place certains ajustements pour les amplifier, tout en restant dans le cadre de l'unité, et en particulier du PPM. Donc, peut-être que je vais passer rapidement sur le PPM, parce que je vois que j'ai très peu de temps, mais je voudrais quand même dire que ce PPM, révisé de manière assez régulière, a été, dans sa dernière version, organisé autour d'un référentiel de compétences, donc avec un tronc commun et aussi un référentiel spécifique à chaque option. Et pour les options du défunt qui comportent un DE, c'est-à-dire ES et AS, le référentiel spécifique a été bâti en cohérence avec le référentiel des formations avec un diplôme d'État. Donc on a pu voir avec les centres de formation que les enseignements du DIT sous des intitulés différents se retrouvaient finalement de manière assez proche dans le PPN. Donc dans ce fameux PPN, nous avons la possibilité, puisque en échangeant avec mes collègues des écoles, j'ai compris que c'était une inquiétude de leur part, ce programme qui s'annonce. Et bien donc, pour les DUT, il y a la possibilité d'un aménagement de 20% d'adaptation du PPN de 20%. Donc nous sommes saisis de cette opportunité, surtout pour augmenter les semaines de stage et réduire le volume des cours et donc organiser PPN, Programme Pédagogique National. Donc les étudiants de Nanterre réalisent 31 semaines de stage, deux en première année et puis un en deuxième année, avec des conditions qui sont aussi proches de la formation des ES, un lieu d'exercice en éducation spécialisée et un tuteur professionnel. Donc, je voudrais quand même vous dire, je vais passer sur le projet tutoré et sur aussi un module qui est important, qui est le projet personnel et professionnel, qui est en fait un suivi, un accompagnement des parcours de formation de tous les étudiants, avec un référent pour chacun d'eux. Et je voulais quand même vous donner une petite image de qui sont ces étudiants admis à Nanterre, donc avec des petites promotions. Donc, généralement, ce sont deux tiers de néo-bacheliers, un tiers d'étudiants ayant fait une ou deux années dans l'enseignement supérieur ou ayant été déscolarisés. Et peut-être aussi vous dire pourquoi ces étudiants choisissent de faire des études menant à l'éducation spécialisée à Nanterre en unité plutôt que dans une école. Eh bien, souvent, ils évoquent le choix du service public avec la gratuité des épreuves de sélection, les frais de scolarité qui sont moindres, 184 euros par an, l'accès possible aux jeunes candidats, ça, je pense que c'est un point très important. Nous accueillons donc beaucoup de néo-bacheliers, dès lors qu'ils montrent une motivation réaliste, qui soit aussi ancrée dans des expériences concrètes, même si à cet âge-là, évidemment, elle reste modeste. Le cadre des études en unité aussi est très important pour ces étudiants. Des promotions à petit effectif, un encadrement très présent, surtout, et puis la dimension professionnalisante. Également, le fait que ce soit une formation universitaire inscrite dans le cadre du LMD, parce que beaucoup de ces candidats viennent avec certains intérêts pour les professions du social, mais comme ils sont relativement jeunes, ils ont besoin d'éprouver leur projet, notamment avec les stages, et ils se disent que si au final leur projet se réoriente, et bien avec un diplôme universitaire, ça leur sera possible. Et puis aussi, le fait que le DUT soit un diplôme universitaire, certains le recherchent parce qu'ils envisagent, soit après le DUT, soit pour plus tard dans leur carrière, une poursuite d'études. Donc après le DUT, et je terminerai là-dessus, Chaque année, une vingtaine d'étudiants sont diplômés. Donc, très peu choisissent l'insertion professionnelle. Une minorité souhaite poursuivre une voie universitaire, donc soit en licence professionnelle ou en licence générale. Et la majorité d'entre eux poursuivent leur formation en école avec des résultats très honorables au diplôme d'État. Donc vous voyez les chiffres. 81 diplômés du DUT sont passés, 81 diplômés du DUT, 64 ont obtenu l'EDE, donc 16 étudiants par an en moyenne et seulement 3 échecs en 4 ans. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça représente vraiment très peu d'étudiants chaque année par rapport aux 1000 qui se présentent pour le diplôme d'État. Et donc, il n'y a pas lieu donc, de voir dans ce DUT un concurrent pour les écoles, un concurrent très féroce. Voilà.
Bienvenue en Suisse. Pour vous présenter ce travail, on avait pensé, à l'idée de matin, c'est de dire présentation ingénue du monde de la formation en Suisse. Pourquoi ingénue? Parce que je ne suis pas suisse et que c'est le compte rendu d'un grand travail de préparation, puis d'un voyage d'études en Suisse, mais cette préparation et ce voyage, ça ne suffit pas à devenir un spécialiste évidemment de la Suisse. Mais je ne souhaite pas le devenir non plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on peut servir de ce voyage un peu naïf en Suisse pour éclairer le paysage français. Quand je m'intéresse aux Suisses, c'est pour voir par comparaison. Et je trouve que les comparaisons historiques sont très pertinentes, elles sont puissantes. Mais les comparaisons aussi, quand on voyage, c'est vraiment intéressant. Pour vous donner un exemple, il m'a fallu voyager dans pas mal de pays pour me rendre compte, c'est à la base de ma thèse, que la France est le seul pays à pouvoir placer provisoirement un enfant 20 ans. Tant que j'étais en France, je trouvais ça normal, c'est comme ça qu'on fait. Puis, après avoir vu qu'aucun pays faisait pareil, j'ai fini par comprendre qu'on était peut-être différents. Bon. Donc, les voyages permettent de découvrir son propre pays. Donc, je vous invite, en arrière-plan de la Suisse, de se dire que c'est pour s'intéresser à notre pays que je vais présenter ça. Alors, les Suisses, eux, en 10 ans, ils ont fait conjointement et ensemble 4 réformes. Hein. La réforme dont on parlait tout à l'heure, la réforme des diplômes référés aux compétences. Alors, je vous montrerai que moi, à l'époque où on s'intéresse aux compétences en France, je suis allé voir les Suisses parce que j'ai trouvé que leur référentiel de compétences était beaucoup plus complet que les nôtres. Et à l'époque, ils m'ont aidé à me situer dans cette réforme avec un vocabulaire nouveau. Je vous montrerai simplement une slide là-dessus. Ils se sont transformés en TECOL, c'est-à-dire qu'ils sont devenus donc universités, en fait. Et puis, ils ont fait un tronc commun entre 3 métiers canoniques chez eux, c'est-à-dire éducateurs sociaux. Et ils avaient changé le titre à cette époque-là d'éducateur spécialisé en éducateur social. Assistance sociale et animateur social, ben maintenant, ils ont poussé, vous allez voir, très très loin le tronc commun, puisqu'il est carrément des deux tiers. Et puis, ils ont organisé parallèlement, avec le lien avec l'université, un mini Erasmus intercantonal, qui a pour but d'élargir l'offre de formation pour les étudiants, mais aussi de les faire bouger. Hein, on verra qu'il y a là-bas une prime à la mobilité. Tous les principes que je présente, en fait, on voit que la Suisse a investi avant nous très profondément des rapports de l'OCDE, l'esprit de Bologne, et que eux, au fond, c'est un peu une illustration de ce que donne le programme de Bologne pleinement réalisé. Hein. Citons la Suisse, c'est compliqué pour un Français de la Suisse parce qu'il y a 23 cantons et c'est 23 fois différent à plein de niveaux politiques. Donc, si je parle de la Suisse, souvent je dirais des bêtises parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a un principe très très important en Suisse, c'est le principe de subsidiarité. Ce principe, c'est que quand le niveau du bas est capable de faire une chose, le niveau du dessus ne doit pas le faire, mais il doit soutenir. C'est-à-dire, ce que font des associations et des citoyens, la puissance publique doit le soutenir par principe. Et on ne doit pas se substituer au niveau du bas, mais on doit le soutenir. Et donc, alors que nous, on parle d'un millefeuille qui nous fait peur, comment on va simplifier le millefeuille, il y a plus de feuilles encore chez eux, ça ne les gêne pas du moment qu'on respecte bien cette loi. Si on passe un niveau au-dessus, c'est que la base soit ne peut pas faire, soit est d'accord pour faire un niveau supérieur. Et on va voir des politiques, des fois, c'est que la commune qui le fait. D'autres fois, c'est plusieurs communes. Des fois, c'est le canton, des fois, c'est plusieurs cantons. Donc, au début, pour le travail de préparation du voyage, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à se repérer et à comprendre pourquoi c'était si compliqué. En fait, ils tiennent beaucoup, beaucoup à ces différences. Edith Archambault, qui a travaillé sur la question, parle pour la France d'une subsidiarité inversée. C'est-à-dire, en France, l'État est censé tout fournir et les associations combler les lacunes. Dans le principe de subsidiarité, c'est le strict contraire. L'État n'a pas à intervenir là où les associations peuvent intervenir. Donc, c'est aussi un modèle très traditionnel. On a des fois l'impression de retrouver la France d'avant, les années 68, corporatiste. Les corporations jouent un rôle extrêmement important. Et ça donne des organisations très puissantes, très variées, assez étonnantes chez nous, puisque on peut confier du parapublic en Suisse aussi bien à des associations syndicales, politiques, religieuses, et parfois surprenantes pour nous. On a visité des lieux qui, en France, on aurait considéré comme des sacrifices. Mais là-bas, pas de problème. Bon. Ça ne donne pas toujours le meilleur, mais ça peut donner le meilleur. Bon. Donc, modèle dual, l'Allemagne est un. Enfin, la Suisse francophone est très minoritaire en Suisse. Hein. Les germanophones sont deux fois plus nombreux. Et il y a une forte influence germanophone en Suisse. Et c'est donc le modèle dual qui sert de référence. Dans le modèle dual, on a trois fois plus d'apprentis qu'en France et trois fois moins de chômage. C'est pourquoi ? Parce qu'en Suisse, comme en Allemagne, le modèle normal pour arriver au bac, au niveau bac, c'est l'apprentissage dès 15 ans. Et donc, trois jeunes sur quatre sont salariés dès 16 ans. Ils sont apprentis, ils font leurs études apprentis. Et ils font des études, et on va voir que c'est plus lent que chez nous. C'est-à-dire que, comme il y a trois filières, une filière qui équivaudrait en gros à la filière chez nous professionnelle, technologique et la filière académique, ils veulent à un certain moment donné que ces filières arrivent au même niveau pour les formations professionnelles, mais du coup, on va donner plus de temps à ceux qui sont rentrés plus tôt dans le système professionnel. Alors ça, pour pas vous saouler avec la complexité, j'ai fait des petits schémas. Enfin, j'ai cherché des petits schémas. Alors, c'est quand même très important de voir que ce souci que les jeunes arrivent au monde du travail très jeune, ça se traduit par le fait qu'on a des taux de chômage chez les jeunes en Suisse, en Allemagne, qui sont extrêmement faibles, de l'ordre de 8%. C'est surtout un chômage qui est très justement. Hein. En France, on est à 25% et on monte à 50% dans les quartiers sensibles. Ça nous fait réfléchir à l'apprentissage et au rapport aux professions. Pour Martineau, il dit que chez nous, l'apprentissage, on veut le développer, mais tout le système de l'éducation nationale est prévu pour que ça soit une orientation par l'échec. Hein? Et on décourage beaucoup les jeunes qui pourraient continuer des études, on ne leur prend pas l'apprentissage. Tu passes d'abord ton bac académique d'abord. Ce qui fait que l'entrée des jeunes en France dans le marché du travail, année après année, devient plus difficile. Moi, quand j'étais jeune, c'était très facile de travailler l'été dès 16 ans. Ça devient difficile d'accéder au monde du travail pour les jeunes. Bon. Alors. Je vais passer très vite sur la réforme référée aux compétences, parce que ça, c'est proche de chez nous. Je vous disais, là, c'est trop petit pour que vous voyez, mais c'est un référentiel qui est très clair, très développé et très lisible. Et j'ai trouvé qu'on arrivait beaucoup plus vite à se repérer sur le référentiel de compétences. On a des familles de fonctions, hein, et toutes ces fonctions sont extrêmement clairement expliquées. Alors que quand nous, on a découvert le référentiel de compétences, on a découvert des listes et des listes et des listes, en fait, qui n'étaient que des indicateurs, mais il a fallu du temps pour le comprendre. Là, j'ai trouvé que la présentation de tout ça était beaucoup plus claire, ça fait plus sens, à mon avis. Bon, je passe, ça c'est le référentiel français, je passe assez vite, donc, à trois grands systèmes. Donc, les 20% des étudiants font des études qui vont les mener aux études gymnasiales, c'est-à-dire aux études académiques, qui visent des études longues, l'université. Les trois quarts passent par le professionnel assez jeune. Et tout le monde peut accéder à une maturité. Alors, qu'est-ce que c'est la maturité ? Les trois quarts, ils vont passer des études et ils vont finir par avoir, vers 16 ans, un certificat fédéral de compétences. Après ça, ils peuvent rentrer dans le monde du travail. S'ils poursuivent, ils ont un an pour passer une maturité. Après cette maturité, alors il y a une maturité gymnasiale, études longues, une maturité professionnelle, études professionnelles, et une maturité spécialisée qui déjà va spécialiser en direction, une visée de haute école spécialisée. Du coup, on a créé les hautes écoles décernent d'abord un bachelor, et puis depuis, elles décernent maintenant un master. Donc, avant, jusqu'aux années 90, on avait un système qui était assez proche du nôtre, des hautes écoles supérieures, indépendantes. C'est que quand on a créé la maturité professionnelle, qu'on a commencé à vouloir rapprocher le système dual. C'est-à-dire qu'on vise depuis une dizaine d'années à rapprocher l'université du système de formation professionnelle. Et les schémas vont vous montrer qu'on a fait plein de passerelles, notamment via la formation continue. Alors, je passe ça, 4 fois plus d'étudiants qu'en 40 ans. Un système qui demande un peu d'explication. Donc, vous voyez, on a les hautes écoles spécialisées. Bachelor, ça veut dire licence. Master, c'est un crédit du CTS, c'est Bac plus 5. Ensuite, vous avez les hautes écoles pédagogiques. J'ai pas le temps, mais il serait marrant de montrer que ça a été construit avec un anti-modèle français, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas faire l'équivalent des IUFM. Hein, donc on s'est servi de modèle de l'IUFM comme anti-modèle, en disant que c'était un modèle avec trop descendant, trop condescendant, et qu'il fallait que la base des professionnels soit beaucoup plus associée à la conception. Ensuite, on a le système académique qui va tout droit au doctorat, mais vous voyez un grand bloc, là, la formation continue. Cette formation continue, elle délivre aussi des ECTS, ce qui fait qu'un professionnel peut se voir payer dans sa formation des modules qui, petit à petit, il va pouvoir convertir en diplôme via des passages, eux aussi financés par l'université, ce qui fait que depuis qu'on a fait ça, on a plein de passerelles entre le monde du travail et le monde universitaire. Puisqu'on a deux universités maintenant parallèles, l'université des hautes écoles jusqu'au master, mais que ce soit au niveau de la licence, du master ou du doctorat, ça fourmille de passerelles. Et on va trouver dans les études académiques pas mal de professionnels qui ont fait tout le parcours. Alors, la recherche a été conçue comme l'instrument de partenariat de tout ce beau monde. C'est-à-dire comme au Québec, on va dire, tout le monde, terrain, haute école, université, doit travailler ensemble. On a de plus en plus des recherches qui ont un triple financement, les trois tiers, un tiers financé par le terrain, un tiers financé par une haute école, un tiers financé par l'université. Donc on se sert de la recherche pour forcer tout le monde à travailler ensemble. Autant vous dire que ça n'a pas été fait si simplement que ça, parce que ces mariages forcés, arrangés, une partie a été faite dans la joie et la bonne humeur, puisque ça existait déjà et la loi l'a reconnue. Une autre partie, il a fallu suivre. Et donc quand on discute avec certains interlocuteurs, ils disent, bah oui, eux, ils le faisaient depuis longtemps, bah, nous, on a dû s'y mettre en vitesse parce qu'on n'avait pas ce modèle-là. Je vous donne un exemple de formation continue. Vous avez 22 journées de formation continue en 4 modules. Vous devez rendre un mémoire à la fin. Si vous faites ça, on vous donne un certificat de 15 ECTS qui va vous servir à accumuler des ECTS pour pouvoir vous former en même temps que vous travaillez. Donc là, on a, c'est trop petit pour le voir, mais on voit que dans le conseil scientifique de cette formation, clairement, on a marié des universitaires, des hautes écoles, des terrains. Alors, ce qui est important, c'est le mouvement de regroupement des équivalents IRTS et des écoles monofilières d'avant, qui ont fait un regroupement tout à fait impressionnant, puisque sur la cinquantaine d'écoles, en tout, il n'y en a plus que 4 qui sont regroupés dans la haute école de Suisse occidentale. Bon. Donc, on a aussi, dans ce travail, un élargissement des compétences fédérales. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi l'idée de mettre en réseau, au niveau de la Suisse, des choses qui étaient très éclatées au niveau des cantons. Alors, si je vous prends l'exemple de la haute école HESO de Suisse occidentale, eh bien actuellement tout ce travail a mis en réseau chercheurs, professionnels et terrain. Hein. On a, pour cette haute école, 720 institutions partenaires, 2600 personnes reconnues praticiens formateurs, et on voit que ces praticiens formateurs, dans la collaboration avec les écoles et les terrains, ils vont à un moment donné brancher sur des recherches, ce qui va les inciter à aller du côté de la formation. Et donc, on a des régulations, alors je vais aller assez vite là-dessus, ce qu'ils appellent régulation, moi j'appelle ça un test de sélection très sévère, c'est-à-dire qu'à l'entrée, tous les éducateurs doivent avoir 40 semaines d'expérience professionnelle. C'est-à-dire que quand ils ont passé leur maturité professionnelle, ils ne peuvent pas rentrer à l'autre école comme ça. Il y a un an d'expérience professionnelle qui est imposée. Et la régulation, c'est qu'il faut faire un mémoire, il faut être validé par un terrain, et il faut être admis en sélection à la haute école. Et en plus, on demande un travail réflexif à l'étudiant. Vous avez en plus un test de connaissances approfondi. Donc, il y a d'un côté un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Mais en même temps, à chaque fois, il y a du soutien. C'est-à-dire, on vous dit, tiens, vous n'avez pas une mention assez bonne à votre haute maturité, donc ça va être difficile pour vous d'intégrer la haute école l'an prochain. Allez suivre des cours complémentaires au gymnase de telle ville. Et si la personne rate, à toujours, on lui donne des indications du travail complémentaire qu'elle doit faire pour rentrer la fois prochaine. Donc l'idée, c'est vraiment de donner du temps au temps pour que les gens qui sont le plus loin des prérequis de base puissent rentrer. Et du coup, il lâche peu de monde en route. Hein. Il lâche peu de monde en route. Donc si... bon là, je vais passer vite. Donc maintenant, le tronc commun, terminé hein, en deux minutes. Donc ce tronc commun, on voit qu'on commence par une première année où... alors ça descend, hein, c'est vers le bas. La première année est en haut. On a un tronc commun avec des cours sur le travail social et des stages de découverte qui sont communs aux trois métiers. En deuxième année, une spécialisation par famille professionnelle, mais on garde quand même un tronc commun. Et la troisième année, on a une spécialisation publique qui va être mariée à de la recherche en tronc commun, c'est-à-dire que sur tous les sites, des quatre sites de la Haute École Suisse Occidentale, on va proposer des thématiques spécialisées et les étudiants vont devoir s'inscrire pour dire ben moi, en lien avec mon mémoire et mon choix de public, je dépose à Fribourg, à Sion et à Lausanne une demande. Et la règle, c'est qu'il y a souvent plus de candidats que de places. On donne priorité à ceux qui bougent. Celui qui vient d'une autre école sera prioritaire sur celui de l'école. Je conclue pour une chose que je trouve intéressante. Tout ce travail a été mené avec les terrains à la base et on leur a demandé dans la formation quelles sont les thématiques émergentes que vous souhaitez voir abordées dans les formations. Alors je conclue en vous disant simplement ces cinq thématiques qui ont émergé de tous les terrains. La première, c'est l'émergence de la dimension interculturelle dans les situations et la nécessité d'apprendre hein, dans ce domaine. Le besoin d'appui à la parentalité et d'accompagnement des familles. Le nécessaire appui à l'insertion et réinsertion socio-professionnelle par des structures intermédiaires ou d'accompagnement. Et la présence croissante et la complexité des trajectoires psychiatriques et des troubles psychiques chez les personnes accueillies et accompagnées. Enfin, la question de la perte des liens sociaux et la lutte contre la solitude et l'isolement. Voilà, je vous remercie.